Quoi?
Quoi, quoi?
Voilà quoi! Mais merde! Il va encore falloir finir le morceau ici, quoi! Sur les mêmes qui bossent! Et juste, ça tourne encore ou pas?
Bah ouais, mais bon, quand même!
Bah quoi?
Quoi?
Quoi, quoi?
Oh! Quand j'ai perdu ma femme, y'a tout le monde qui croyait au drame. Moi j'étais tout content quand j'ai vu son compte courant. Ça ne m'a pas empêché, même crevé à m'emmerder. Un cercueil biodégradable, j'en ai pas trouvé, bébé.
De ça qui vient ici.
Les discrets présentent. Curieuse expression.
Faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Oui, on peut être contre, effectivement, le mélange des torchons et serviettes, mais enfin, il y a des situations où il faudrait, au contraire, hein, mélanger le bas et le haut, vous voulez dire, hein, le petit peuple avec la taille, avec l'aristocratie, non, même pas la petite bourgeoisie, quoi. Ah, oh ben si, justement, c'est ce qu'on a fait en France. On a mélangé les torchons et les serviettes. C'était le but de la Révolution. Hein? Il fallait élever les torchons, si je puis dire, et en faire des serviettes. Ah oui, oui, je vois ça comme ça.
Si vous prenez, disons, des gens qui font partie de la bourgeoisie, entre guillemets...
Ça dépend de la classe, oui.
De ma génération, par exemple... ils n'étaient pas tout à fait satisfaits de voir leur progéniture s'allier avec...
Oui, il y a toujours eu quand même une petite séparation, mais enfin, il y a eu pire. Moi, je suis de la région parisienne,
oui,
alors...
Oui, non, j'ai toujours... Oui,
jamais senti, moi, de différence. La fête à Neuneu, moi, la fête à Neuneu, c'était une fête d'Anneuilly, la fête foraine, qui était comme la foire du trône, une foire et tout, on était tous à Neuilly. Il n'y a pas de différence entre une personne de Neuilly et une personne de...
Ah oui, non, mais pour des manifestations comme ça...
Il n'y avait pas de différence de classe. Il n'y avait pas de mur.
Il n'y avait pas de mur. En province, le fond de la question, c'est... Bon, c'est vrai que je ne sais pas comment c'est maintenant à ce niveau-là. Quoique je pense que ça continue encore dans certaines familles.
Dans certaines provinces, peut-être.
Mais ils, non, mais même, enfin bon, d'une façon générale, quand on est d'un certain milieu, supporte mal le mariage avec un milieu qui n'est pas...
Oui, mais enfin, parlons d'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est de moins en moins...
Radioactive.
Vous voulez prendre 10 minutes pour vous? Je suis Marie Montassier, esthéticienne, et je vous propose de nous retrouver tous les lundis et les vendredis à midi pour la chronique beauté.
Found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. the whole world fades, I'll always remember us. This way.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Drifting across the moon, cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town. Dirty old town. I'm gonna make me a picture back. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town. Dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. Kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. But my love at a gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal.
94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive. Radioactive.
Dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu, ça
champ de blé. Je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à fin. Boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et je chante pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Mais j'ai pas un beau chapeau comme Manu Chao et j'irai en vacances seulement. Seul avec mes vaches, si j'avais le portefeuille de...
radio, radio active.
Et maintenant, il est l'heure de retrouver Jean-Michel et ses invités pour une nouvelle chronique Addicto sur Radioactive. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Marlène. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Gilles Poulain et Dominique Yarnouf, tous deux membres du collectif d'alcoolologie d'Indre-et-Loire. Et Dominique, tu fais partie également de la santé de la famille. Alors aujourd'hui, vous êtes venus nous parler de la codépendance, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans l'entourage des personnes souffrant d'addiction. Je vais donc donner la parole à Gilles et Dominique pour lancer ce sujet. Dominique, tu peux nous donner ta définition de la codépendance ?
Oui, tout à fait, Jean-Michel. Le mot codépendance est un terme un peu ambigu, qui est parfois mal utilisé, voire mal compris. C'est en fait un trouble de la relation au sens large, bien sûr, vis-à-vis d'une personne qui présente des difficultés dans sa vie. Actuellement, ce terme de codépendance est surtout entendu comme un concept qui est souvent associé aux relations avec des personnes dépendantes à des substances psychoactives, comme l'alcool, bien sûr, par exemple. C'est bien sûr le sens de cette chronique. Le codépendant est en fait un individu s'étant laissé affecter par le comportement d'un autre et se faisant une véritable obsession de contrôler son comportement. Ceci explique qu'il est parfois difficile de définir avec précision la codépendance, car les manifestations sont souvent diverses et d'intensité variable selon les individus. Soulignons ici que le codépendant n'est pas, en principe, dépendant d'une substance.
Alors Gilles, une codépendance, ça commence comment ?
Eh bien, une codépendance touche dans l'entourage proche des sujets addicts qui pensent quelquefois qu'en donnant de l'amour, il sera le sauveur initial et exclusif du malade dépendant. Ces personnes, évidemment, sont pleines de bonne volonté, ignorant ce qu'est la maladie addiction. Elles font fausse route et, hélas, peuvent s'enfermer dans leur propre déni et dans celui du dépendant. En jetant un regard très souvent erroné sur la situation et en refusant le recours aux soins médicaux, ils ne font alors qu'envenimer une relation pouvant être, au fil du temps, toxique.
Tu parles d'entourage proche. Tu peux préciser un peu ?
Oui, bah évidemment, entourage proche. Concernant la dépendance à l'alcool, l'addiction qui est à l'alcool qui est la plus répandue, c'est bien évidemment au départ dans le milieu familial, le conjoint, la conjointe, les parents pour leurs enfants, quel que soit leur âge, même quand ils sont devenus adultes, les amis proches, mais aussi parce que les personnes addictes protègent leur milieu de travail, les collègues qui, souvent dans le doute, tardent à intervenir de peur d'importuner ou de se mêler de choses qui ne les regardent pas. Un cas particulier que l'on peut signaler, c'est celui des enfants dont un ou deux parents sont dépendants. Ces enfants, parfois assez jeunes, vont pouvoir devenir codépendants et être parentalisés, c'est-à-dire se positionner en adulte protecteur pour pouvoir répondre aux sollicitations ou aux besoins de leurs parents.
C'est donc en fait une sorte d'inversion des rôles ?
Tout à fait, Jean-Michel, et cette inversion peut les conduire à endosser des responsabilités qui correspondent ni à leur âge, ni à leur place, bien sûr, au sein de la famille. Vous imaginez bien que cette codépendance parentalisée n'est heureusement pas trop souvent le cas, mais déstabilise un peu le psychisme des enfants, les plus jeunes surtout, pouvant les conduire vers de futurs excès.
Alors, quels sont les cas les plus fréquents ?
Alors, les cas de codépendance les plus souvent retrouvés sont ceux entre conjoints, surtout avec l'alcool, ceux des parents, enfants, ados ou plus âgés pour l'alcool et les produits illicites. Mais on va d'abord évoquer la codépendance entre conjoints. Dans les cas les plus fréquents, un seul des deux est dépendant. Cette codépendance est souvent d'installation très progressive et va s'accompagner d'un phénomène de grande tolérance de l'un vis-à-vis de l'autre. Plus graduellement, le codépendant va essayer d'initier des actions raisonnées et curatives.
Gilles, tu dis le codépendant, mais je crois que c'est surtout la codépendante.
Oui, c'est vrai, tu as raison, ce sont le plus souvent les femmes qui sont codépendantes, conjointes ou mères, mais j'emploie le masculin pour parler du codépendant en parlant de l'homme au sens l'humain. Des initiatives du codépendant sont faciles à imaginer. Conseils, surveillance accrue, interdiction, et sont presque toujours la cause d'une recrudescence des tensions dans un couple ou dans la famille. Recrudescence qui n'arrange rien à la consommation des substances psychoactives et rien non plus à l'angoisse du codépendant qui, déçu, va augmenter encore ses efforts de vigilance pour essayer d'arriver à quelque chose de positif. Pour le malade addict, les reproches, les conflits engendrent des mensonges, des distorsions inévitables qui aggravent une situation qui devient de plus en plus ingérable. Lorsque le codépendant estime que sa situation n'est pas reconnue par le partenaire, par l'entourage, que ses efforts ne sont pas récompensés, il peut se voir comme une victime et avoir recours à un chantage, à la menace pour essayer de reprendre le contrôle et faire changer l'autre.
Rappelons que cette codépendance peut toucher autant les femmes que les hommes aujourd'hui. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Bah oui, quand le conjoint prend ses expériences émotionnelles de son partenaire comme si elles étaient les siennes, certains parlent de codépendance exogène en regard de cette situation nouvelle et ingérable. La codépendance endogène pourrait être une codépendance initiée par une situation familiale vécue antérieurement, comme celle des enfants parentalisés.
Quels sont les risques quand le codépendant est littéralement envahi par la situation de l'autre ?
Alors, cette préoccupation excessive envers la personne dépendante se fait au détriment de ses propres besoins, de sa propre vie. Le dépendant, de peur d'être délaissé, peut essayer de séduire, de se rapprocher de son ou de sa partenaire en évoquant un avenir meilleur, avec des propositions utopiques et virtuelles. Je vais arrêter de consommer, on pourrait se marier, on pourrait avoir un enfant. Tout ceci pour gagner du temps, jouer la montre, comme on dit quelquefois, dans le sport. Le codépendant peut alors rentrer dans un processus appelé la contre-dépendance qui le fera vivre entre attirance et aversion. À terme, la séparation du couple est très fréquente.
Qu'en est-il de la codépendance parent-enfant ?
Remarquons déjà qu'elle ne concerne pas que les ados qui commencent à consommer des produits licites ou non, mais qu'elle peut se prolonger, voire s'initier, lorsque les enfants sont adultes et même, je dirais, des adultes âgés. On a dans nos associations respectives des enfants de 30 ou 35 ans qui sont encore sous la codépendance de leurs parents. Lorsque les consommations chez les jeunes commence à devenir abusive. Les parents, bien sûr, essaient logiquement de les faire réduire, voire de les interdire. Dans quelques cas, ces conseils sont vains et une addiction peut arriver malgré un encadrement encore plus serré. Cette situation, mal vécue évidemment par les parents, les culpabilise grandement. Comment et pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi chez nous ? Qu'avons-nous bien fait ? Qu'avons-nous mal fait ? Que n'avons-nous pas fait ? Ces premières réflexions vont être faites dans un contexte, j'appellerais très protecteur, pour essayer d'inverser une situation qui déjà leur échappe.
Que peut-il arriver alors ?
Ce surencadrement risque encore plus d'irriter l'enfant. Son mal-être va pouvoir amplifier la dérive addictive qu'il touche déjà. Les parents sont toujours protecteurs, bien sûr, et pensent souvent pouvoir réguler seuls cette situation, souvent cachée au niveau de l'entourage.
Caché parce que ça ne fait pas bien d'avoir un drogué dans la famille ?
Bah oui, Jean-Michel, tu as tout à fait raison, c'est l'évidence. Le comportement de l'enfant va lui attirer tous les mauvais qualificatifs du monde, des ennuis avec la police et la justice, ce qui ne va rien arranger et amener de nouvelles distensions enfant-parent. Les conflits, quelquefois physiques, pouvant faire évoquer une éventuelle mauvaise éducation.
Alors que faire ?
Se faire aider. En contactant une association, participer à des groupes de parole est certainement le moyen le plus efficace pour rentrer dans un processus de soins. Hélas, il existe peu de groupes de parole pour les codépendants, sinon malgré tout les groupes d'aide des familles à la non et à la tine. Faire comprendre aux parents que les addictions sont des maladies dont la survenue dépend de facteurs souvent extra-familiaux, vulnérabilité, contexte, produit. Il faut consulter un médecin traitant, même si c'est parfois difficile, et ou un centre d'addictologie où la situation pourrait être plus clairement et sereinement évoquée. Les prises en charge psychologiques et médicamenteuses pourront se montrer salutaires.
Gilles, ces situations sont toujours salutaires ?
Hélas, non, pas toujours. Il y a des cas où l'addiction reste plus forte et les tentatives de soins sont incertaines ou intermittentes. Les parents sont toujours bienveillants pour leur enfant, peuvent, malgré le temps qui passe, l'aider à vivre, notamment par un apport financier, encore surprotecteur. Apport qui pourra être investi, hélas, au grand désespoir des parents, dans des narcotiques ou des produits psychoactifs. Donc, peu à peu, les liens parents-enfants vont se distendre sur un fond de disputes, de reproches permanents. Dans les cas les plus sévères, pas trop fréquents, heureusement, les parents, n'en pouvant plus, à terme, vont abandonner leur enfant, qui est souvent arrivé à l'âge adulte. Cet abandon et cette séparation avec un conjoint et un enfant est un vrai déchirement, mais peut-être salutaire. C'est une décision qui doit être prise en tenant compte du stade de la maladie et de la personnalité du dépendant. Ne pouvant compter que sur elle-même, la personne addict se retrouve donc à la rue, peut rapidement toucher son fond et réagir positivement en prenant une décision de soins. Si la dépendance est trop forte, la capacité à prendre une initiative bénéfique à un instant T sera repoussée au profit d'une consommation indispensable que le malade sait bien délétère.
Et pour la codépendance entre adultes, notamment conjoints-conjointes, que peut-on faire ?
La prise en charge d'un codépendant peut être liée, bien sûr, à la réussite de celle du dépendant. Mais ce n'est probablement pas le cas le plus fréquent. En dehors des classiques traitements pharmacologiques, type anxiolytique, antidépresseur, un accompagnement psychologique est très souhaitable, voire même indispensable. Il peut bien évidemment se faire avec un psychothérapeute. Comme on l'a déjà souligné, il existe maintenant un certain nombre de groupes d'entraide réservés aux codépendants. Nos associations Santé de la Famille et Collectif d'Alcoologie d'Indre-et-Loire en organisent depuis longtemps.
Quels sont les intérêts ou les qualités de ces groupes ?
Alors, le travail de groupe et le travail en groupe permettent de retrouver l'estime de soi, sens qui a, au fil de temps, été oublié, perdu par le codépendant comme par le dépendant. Cela est propice à une reconstruction positive du moi, avec une libération de la parole et de trouver de la compréhension auprès de personnes qui ont subi les mêmes souffrances. La solitude et le sentiment de honte peuvent être ainsi rompus. Ces groupes permettent d'avoir des espaces et des lieux pour exister avec moins de contraintes et de trouver un nouveau sens à la vie, une nouvelle normalisation. La participation à de tels groupes nous semble essentielle dans l'amélioration psychologique du codépendant.
Et cela prend du temps ?
Je crois qu'il est impossible de répondre brièvement à cette question. C'est une démarche personnelle, souvent longue. Soulignons déjà qu'il n'existe pas un groupe d'entraide idéal, mais seulement des groupes correspondant le mieux à l'attente de la personne. La durée ne peut pas être fixée à l'avance, elle dépend de la qualité et de l'efficacité du suivi. Elle ne doit pas, bien sûr, être imposée, c'est le codépendant qui décide de son calendrier. En fait, on revient là à tout ce qui est proposé par les groupes de parole pour les sujets dépendants.
Gilles, Dominique, je vous remercie d'avoir bien éclairé le problème de la codépendance, mais comment peut-on essayer de l'amoindrir ?
Ouh là là, c'est une bonne question dont la réponse n'est pas facile car elle concerne bien sûr beaucoup de cas particuliers. Comme on l'a évoqué, lorsqu'on parle d'addiction, on se rapporte toujours, hélas toujours, aux consommateurs, aux produits consommés, à leurs difficultés existentielles, à leurs souffrances lors des sevrages, à leur obligation de consommer, aux différentes techniques de prise en charge, etc. Mais il faut reconnaître que les codépendants, comme nous les avons définis, passent souvent à la trappe, si vous me permettez l'expression. Ce sont pourtant des personnes qui souffrent également énormément de la dépendance de l'être cher. Ce ne sont bien sûr pas les mêmes souffrances, mais des épreuves psychologiques sévères, entrecoupées d'épisodes d'espoir et surtout de désespoir, insoutenables à terme qui paraissent insolubles. Des consultations médicales pourront limiter les épisodes d'anxiété, de dépression, de détresse morale. Les groupes d'entraide réservés aux codépendants sont animés par des anciens codépendants, illustrant leurs propos par leur expérience. Cela permet aux participants de ne pas se sentir seuls face à de nombreux problèmes communs et de pouvoir communiquer avec des personnes des détresses semblables aux leurs. Le fait de rappeler ou d'annoncer que les addictions ont un point de départ maladif permet souvent de rationaliser le comportement des addicts, de déculpabiliser l'entourage et ainsi de rassurer les codépendants sur leurs difficultés à gérer des situations insupportables.
Nous remercions Radioactive de nous permettre de parler de ces codépendants, car classiquement, lorsque sont abordés les problèmes des sujets addicts, ceux de l'entourage, également très importants, sont souvent laissés de côté, et même si les choses tendent doucement à s'arranger. Merci à Vincent qui est à la technique. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur la page Facebook de Radioactive, fm.fr, et sur le site Santé de la Famille, ainsi que sur notre page Facebook. Au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous. Merci.
Radioactive!
Bonjour à tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure d'une nouvelle édition du Mac d'Actu, une émission qui vous propose de découvrir chaque jour une initiative locale, une association, un projet, une manifestation, en bref, tout ce qui fait la richesse de notre territoire. Si vous habitez autour d'Amboise, vous avez très certainement remarqué ces petits panneaux en bord de route annonçant les 30 ans de l'association Les Jardins de Contrat de Montreuil en Touraine ce dimanche 5 mai. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de leur équipe pour tout savoir du programme qui attend les visiteurs. Nous sommes accueillis par Yannick Moreau, directeur technique, et Lola Ligère, encadrante technique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, déjà pour commencer, de votre mission à chacun? En quoi ça consiste? Alors, Yannick, directeur technique?
C'est dans le terme. Moi, je m'occupe de tout ce qui est technique à la ferme. J'ai une collègue donc, qui elle, est directrice administrative. Un homme, une femme, même âge, même rémunération. moi, je m'occupe donc de tout ce qui est technique et aussi de la partie ressources humaines. Donc, je m'occupe de tout ce qui peut ne pas fonctionner dans la ferme et je m'arrange pour que ça fonctionne, en gros. Voilà.
Très bien. Et Lola, en tant qu'encadrante technique?
Moi, mon rôle, ça va être d'accompagner les équipes sur les activités de production, mais également de réaliser la composition des paniers, donc le contenu des paniers que l'on retrouve en livraison donc chaque semaine. J'ai aussi des responsabilités dans la commercialisation, donc je fais une partie du lien avec les magasins.
C'est important, c'est une grosse partie aussi de votre boulot. Alors, peut-être qu'avant de parler de l'anniversaire, qui est le thème central de cette émission aujourd'hui, de nous rappeler ce que c'est que les jardins de contrat. Vous nous avez donné quelques éléments de réponse déjà, mais rappelez-nous ce que c'est.
Alors, Jardin Contrat, on peut dire que c'est une exploitation quand même maraîchère. On produit des légumes bio de saison toute l'année, donc ici à Montreuil-en-Touraine, et qu'on livre sous forme de panier. Mais c'est aussi un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on aide des gens qui sont en difficulté à un moment donné dans leur recherche d'emploi et des fois tout simplement aussi dans leur vie à trouver des solutions. Voilà.
Alors, les personnes qui arrivent ici, ce sont des contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans, si je ne me trompe. C'est des gens qui sont prescrits par des travailleurs sociaux ou est-ce qu'on vient taper à la porte avec son CV pour être embauché au jardin de contrat?
Alors, la plupart du temps, ce sont quand même des gens qui sont prescrits. On peut venir, mais c'est plus simple quand même de passer soit par son référent RSA, soit par France Travail maintenant. Voilà, c'est quand même plus simple comme ça. Les gens qui sont en difficulté devant l'emploi, nous, on leur propose de leur filer un coup de main, d'essayer de leur trouver des solutions. Le maraîchage permet quand même de donner une bonne vision des problématiques de chacun, en fait.
Ouais.
Et c'est un bon appui pour connaître les points forts, les points faibles, et puis de savoir dans quel sens on peut leur filer un coup de main. Très souvent, c'est surtout de la remise en confiance. C'est des gens qui ont perdu un petit peu confiance en eux et qui ont besoin de se remettre en confiance. Et nous, on les aide beaucoup en ça, en fait.
Alors, c'est pas forcément des personnes qui sont déjà issues du milieu agricole. Ils ont pu faire totalement autre chose et réapprendre un métier?
Alors oui, alors absolument, on n'est pas ici pour former des maraîchers. Vraiment, le maraîchage, c'est vraiment un support d'activité. Ça nous permet quand même d'observer en fait les gens en milieu de travail et de les orienter vers des domaines qui leur plaisent. Et puis, le contrat, il leur permet surtout aussi d'avoir du temps, parce que c'est des contrats qui sont à 24 heures par semaine, voilà, dans un premier temps. Et ça leur permet quand même d'avoir du temps pour travailler aussi de leur côté sur leur projet professionnel. On ne fait pas les choses à leur place ici, on les aide, voilà.
Vous avez combien de superficie de culture?
Environ 10 hectares de maraîchage en plein champ et on a 2 hectares sous abri. D'accord. Voilà. 2 hectares sous abri, ça nous permet d'avoir des productions de printemps et d'automne. Et puis aussi, bon, d'avoir un peu pour l'hiver. Mais pour l'hiver, on a surtout des grandes chambres froides qui nous permettent de conserver quand même pas mal de légumes. Mmh. Ce qui nous permet aussi de fournir des légumes à des petits producteurs qui sont dans la région. Hein. Mmh. Ça, c'est son travail à Lola, de leur proposer une mercuriale pour qu'ils puissent venir nous acheter des légumes. Ça leur permet à eux de maintenir leur vente directe. Voilà.
Ok, donc on a évoqué évidemment une grande partie de votre activité, ces fameux paniers bio, donc tout est cultivé sur place, on l'a bien compris. Comment ça se passe? Un panier est composé de quoi? Est-ce qu'on peut adhérer? Comment ça se passe finalement ce système?
Donc nous avons 3 formats de paniers, les petits, les moyens et les grands. Donc dans les petits, on retrouve 4 légumes différents, dans les moyens 5 et dans les grands 6. On fonctionne avec un abonnement qui est annuel, avec une période d'essai, comme ça on peut essayer sur un mois, et puis si ça ne convient pas, on arrête. Mmh. Donc pour s'inscrire, il suffit de contacter les jardins de contrat. On peut aussi s'inscrire sur Internet directement. Les paniers sont ensuite livrés sur un point de dépôt. Il y en a 65 dans le département, donc il y a quand même moyen d'en trouver un près de chez nous.
Oui, alors justement, on l'évoquait hors antenne, mais ce n'est pas que sur le Val d'Amboise. Hein. Vous avez une zone géographique qui est plus étendue que ça. Hein.
Oui, effectivement, on va jusqu'à Tours, un petit peu au nord du département, Château-Renaud, toute la zone périurbaine de Tours, hein, jusqu'à Mont au plus loin, et puis Amboise aussi, évidemment.
D'accord. Alors, on précise quand même à nos auditeurs qu'il s'agit de légumes de saison. On ne choisit pas le contenu de son panier, en fait. Ce n'est pas à la carte.
Non, effectivement. C'est une composition qui se fait en fonction de ce qu'on a dans les champs à ce moment-là.
Alors, ce qui est très bien sur votre site internet, c'est qu'on peut souscrire à nos paniers et en plus, on a des idées de recettes. C'est-à-dire qu'il y a toujours la petite fiche recette qui permet de pouvoir cuisiner les légumes qu'on aura dans son panier.
Oui, on essaye de donner des idées parce que, effectivement, comme l'abonné ne choisit pas forcément le contenu de son panier, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus compliquées à cuisiner où on a moins d'idées. Donc voilà, ça accompagne aussi. Et puis parfois, on ne choisit pas forcément d'avoir, par exemple, 3 fois d'affilée dans son panier des épinards. Donc on va avoir besoin d'un petit peu d'aide pour les cuisiner différemment.
C'est rare, ça.
C'est rare. Oui, c'est rare.
Non. De temps en temps, on peut avoir des légumes qu'on n'aime pas, mais les légumes qu'on n'aime pas, oui. Soit on apprend à les cuisiner de façon différente, et soit on les amène à ses voisins. Ça permet de faire des liens avec les voisins et ou les amis.
Voilà.
Exactement. Combien de salariés en contrat d'insertion vous accueillez sur une année, par exemple?
Alors, sur une année, on signe à environ 45 contrats pour des salariés en insertion. Voilà. C'est la moyenne de contrats qu'on a sur la ferme habituellement. Là, en ce moment, il va y avoir 47 contrats de salariés en insertion.
Et c'est un petit peu tout profil, c'est-à-dire que ça peut être à la fois des jeunes comme des moins jeunes.
Alors oui, c'est très large. Hein. C'est-à-dire que là, le plus jeune en ce moment, il doit avoir 21 ans. Le plus vieux, 63. Vous voyez, des hommes, des femmes, un peu tous les profils. On a quasiment... Là, ça baisse un petit peu, mais on a quasiment autant d'hommes que de femmes en ce moment. Alors, le plus possible, on a essayé de travailler sur l'ergonomie du travail et on met en place des choses pour vraiment que les gens ne se cassent pas le dos ici. Le but, ce n'est pas de casser les gens au travail, c'est vraiment de les préserver au maximum. Donc les femmes peuvent venir aussi travailler au genre de contrat, il n'y a vraiment aucun problème.
Donc intergénérationnel, mixité culturelle, oui. Parité, tout y est. Et vous avez une idée de ce que ça peut représenter depuis 30 ans que cette association existe et œuvre dans le champ de l'insertion sociale et de l'économie solidaire, hein, pour le coup? Ça fait combien de personnes en 30 ans qui ont pu être accompagnées?
Alors, on a fait un petit calcul là, parce qu'on n'a pas de compte exact, mais approximativement 850 à 900 personnes qui sont passées au jardin de contrat, qui ont été accompagnées ici, voilà.
Je pense que vous pouvez être fiers de votre travail.
Merci.
Alors, on va en venir à l'actualité de cette fin de semaine. Dimanche 5 mai, l'association célébrera, comme les auditeurs l'auront bien compris, ses 30 années d'activité. Qu'est-ce que vous organisez à cette occasion?
Alors, il y aura plein de choses. Donc, il y a les choses habituelles que nous proposons lors de nos portes ouvertes. Donc, des visites de culture avec la possibilité d'acheter des légumes, de se restaurer sur place. Il y aura aussi un marché de producteurs avec 25 exposants qui sont artisans, producteurs locaux, mais aussi photographes, dessinateurs. Il y aura également des associations locales. Et il y aura aussi cette année 4 groupes de musique.
Très bien. Est-ce qu'on connaît le nom des groupes?
Oui, alors il y aura Jean l'artiste qui va jouer en début de journée. Nous aurons ensuite les Cool Porters qui commenceront à 14h. Et à 16h30, nous avons 2 groupes de Renny, But or Not et Pas de chez nous.
Qui le sont pourtant?
Qui le sont?
Ah, super.
un super programme. Vous parliez, Lola, de vente de légumes. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'acheter des plants de légumes aussi pour son potager ?
Oui, tout à fait. Nous organisons aussi une vente de plants. Donc, il y aura des concombres, des salades, des plants de persil et des plants de tomates.
Super. Et là, ça y est, c'est l'époque où il faut attendre encore un peu ?
Oh, ben, on peut attendre encore une semaine ou deux, mais on va pouvoir bientôt démarrer le jardin.
Super. Alors, vous pouvez nous rappeler les horaires ? Début des festivités ?
À 10h, jusqu'à 18h.
Très bien. C'est en entrée libre, évidemment. Un parking est prévu pour les visiteurs. Petite restauration, tout sera prévu sur place ?
Oui, donc restauration proposée par le traiteur Nouvelle-Orléans Traiteur de Mont-Louis, qui propose de la cuisine Cajun et Tex-Mex. Voilà, il y aura également un brasseur et un vigneron.
32 gâteaux, enfin voilà. Ce que Lola ne vous a pas dit non plus tout à l'heure sur son travail, c'est qu'elle ne fait pas que d'accompagner les salariés dans les champs. Elle fait aussi de la conduite de tracteur, du travail du sol, de la préparation de terrain, des choses comme ça. Voilà.
Ah oui,
il y a aussi ça. Oui.
Mais c'était important de le préciser, Lola, quand même. Donc si nos auditeurs n'ont pas eu assez d'informations dans cette émission qui pourtant était quand même très bien menée, très bien détaillée, où peuvent-ils se renseigner ?
Alors ils peuvent se renseigner sur le Facebook des Jardins de Contrat et sur le site internet également.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Lola Ligère. Je rappelle que vous êtes encadrante technique au Jardin de Contrat, donc qui se situe à la ferme du Roucheux, hein, à Montreuil-en-Touraine. Et Yannick Moreau, directeur technique. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci à vous, au revoir.
Merci, au revoir.
C'est la fin de ce mag. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.
Radioactive. Radioactive.
Toute la vie locale dans une radio.
Radioactive.
Like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. All the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
L'hippocampe, l'hippocampe a tout sauf l'apparence d'un poisson.
Je vous invite à un petit aquatri. Plonge dans mon monde quelques centaines de secondes.
Laisse-moi chatouiller tes orteils.
Nage, mais ne bois pas la tasse. Au royaume des algues,
on aime gazouiller, c'est mortel.
Poète, néo-rétro-modeste, zéro défaut, recherche d'honnêtes et gracile, crevettes avides, de rodéo, de phrases et de rimes sous-marines, acides et équestres. Triangle des Bermudes, j'aime ma coquiner régulièrement avec de belles mutes. Reine, cheval des mers superbes, je me déplace verticalement, n'ai jamais tort évidemment, car l'erreur est humaine. Je porte et protège mes œufs, chacun renferme un proverbe, un poème, parfois même les deux. Tant de drôles de rectifs, tout le monde me fait signe, comme si j'étais Poséidon sur le dos de Nessie. Je trie les déchets venus du continent plastique, au risque d'être qualifié de stupide écolo drastique. Mais ici-bas, rien n'est problématique que dans des épaves, danser des crabes avec Pogno Bob et Patrick Aquatrip. De la Jamaïque aux îles Canaries, de l'océan Pacifique, aux égouts de Canarby, sous l'eau tout est magnifique, la quiétude est salvatrice, prends 10 années sabbatiques, viens goûter au paradis. Plonge dans mon monde, quelques centaines de secondes. Laisse-moi chatouiller tes orteils. Nage, mais ne bois pas la tasse. Au royaume des algues,
on aime gazouiller, c'est mortel.
Plonge dans mon monde, 300 millions de secondes.
Laisse-moi chatouiller tes orteils.
Nage en admirant les phrases dans mes bulles d'aquarap.
Elles vont mordiller tes oreilles.
Radioactive.
Radioactive. Radioactive.
La Touraine a trouvé sa radio.
Trouve ton job. La mission locale Loire-Touraine et Radioactive te donne rendez-vous tous les mardis à midi pour trouver ton job,
ta formation,
ta mission d'intérim,
ton apprentissage,
des annonces,
tes conseils,
des interviews d'entreprise,
d'organismes de formation.
Trouve ton bonheur dans l'émission Trouve ton job.
Good times. We'll be right back.
prisonnier de ton viseur. Quand la détonation chantait la mélodie de l'artilleur, il est bien maigre mon gilet. Pour ton baril est plein de charme, adrénaline. Plus nous volions briser l'acier, plus nous étions indéssoudables. Associé à ce sacré roi associable qui lève son verre pour s'oublier sans voir dans la coupe la ciguë. Adrénaline, adrénaline, tu es l'essence de mon voyage, mets ton poison d'or dans mes soutes, je serrerai le moteur sur la route. Avec le le cri qui tonne dans la tribune, ma blague va-t-elle soulever son rire? Non, mais sa claque a provoqué le leur. Mes amis, moi je m'effeuille avec les peupliers de comptoir quand elle coule dans mes racines. Adrénaline, adrénaline, tu es dans le reflet des yeux de la fille du train. De siège devant, j'étais dans le premier pas d'élan qui me projetait de la falaise il y a 15 ans. Adrénaline, 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 adrénaline.
Voyage, bien qu'on ne voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on ne les voit que de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant. Et je joue l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. Qu'un prisonnier qu'aurait voulu être un homme libre. Aller dans les champs, chanter, glaner les frises et les fleurs. Courir les filles, faire des jeux d'enfants, ne plus avoir peur. et je ne joue que de l'accordéon. Alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Oh oui, le nom de prisonnier me va comme un gant. Mais avant ça, les mal brodés, un peu comme celui d'un gitan. Quant à ce que je pense de la tendresse, je me la fourre bien au fond des fesses. Et je ne joue que l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. J'ai bu tous les bistrots à Nantes. Ma vie n'en est pas plus heureuse, mon âme n'en est pas plus contente. Un soir c'est sûr, je l'ai promis, je trahirai tous mes amis. Et je jouerai l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. Du silence et encore moins celui du bruit. Les banlieusards en ont de la chance, les campagnards doivent être ravis. Chez moi, il y a une porte qui grince et il y a un lit qui pousse de cri. Et moi qui joue de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. Tout raté dans cette vie. Et je tremble près de Paris. C'est pas le froid, non, pas le dit, c'est le remords qui me pourrit. Et cette injure en imposture, j'ai jamais mis les points sur les i. Et je ne joue que l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument.